Valerie wird zuerst noch kurz erklären, wie die Umstände waren, in denen sie verhaftet wurde.
Je faisais partie d'une partie de la manifestation qui se déroulait Piazza Dante à Gênes. Et c'est un endroit où les manifestants ont réussi à ouvrir la zone rouge. Je me suis introduite à l'intérieur de la zone rouge pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'ai été la seule à rentrer à l'intérieur de la zone rouge, ce qui fait que je suis rentrée, moi et pas les autres, c'est quelque chose de très personnel qui tient en fait à la volonté, à la colère que l'on détient à l'intérieur de soi et qui tient peut-être aux limites que chacun a. J'avais des raisons que je n'ai pas envie d'exposer, mais bon, il se trouve que je suis donc rentrée à l'intérieur et c'est à l'intérieur de la zone rouge que j'ai été arrêtée.
Valérie war bei einer Demonstration, bei einer der vielen Demonstrationsteile, das war an der Piazza Dante, und bei dieser Demonstration ist es den Leuten gelungen, ein Tor zur roten Zone aufzumachen. Die Leute konnten also in die rote Zone rein und Valerie ist auch in die rote Zone reingegangen, aus persönlichen Gründen, die sie hier nicht näher erklären möchte, aber sie sagt, man hat eine Wut, man hat Dinge in sich, die man ausdrücken will und man hat einen Stolz und sie ging auch mit in diese rote Zone rein und das war da, wo sie dann verhaftet wurde. Und sie wird jetzt ihr Protokoll vorlesen, auf Französisch. Es ist lang, es dauert vielleicht 40, 45 Minuten und die Übersetzung könnt ihr hier nachlesen, für die nicht Französisch verstehen.
Voici un document rédigé dans le seul but de témoigner avec précision et détail sur des événements que j'ai vécus à l'occasion des manifestations à Gênes le 20, 21, 22 et 23 juillet 2001. Il est écrit dans un souci de clarté et loin de toute ambition littéraire ou journalistique, l'important étant de savoir et de faire savoir. J'ai été arrêtée Piazza Dante vendredi 20 juillet à 14h, par un corps d'hommes armés, casqués, protégés de boucliers. Ils m'ont traîné à l'écart de la manifestation, des regards et des médias qui étaient présents Piazza Dante. Là, ils m'ont remise aux mains d'une dizaine d'hommes en civil qui m'ont ordonné de monter dans une voiture banalisée. Devant leur nombre, leur violence verbale et gestuelle et l'agressivité évidente qui émanait d'eux, je me suis couchée au sol et j'ai demandé une personne parlant français, un avocat et des papiers justifiant qu'ils étaient bien de la police. Les premiers coups sont tombés, ils m'ont plaqué la tête au sol et menotté les mains dans le dos en me donnant des coups de botte. Ils m'ont maintenu dans cette position durant une trentaine de minutes. Je les entendais crier « Niente fotos, niente fotos ». Ils m'ont fouillé et vidé mes poches par terre. Soudain, ils m'ont attrapé et demandé d'entrer dans la voiture. J'ai revendiqué qu'on m'ôte les menottes, que l'on m'explique, que l'on me montre des papiers justifiant que je devais leur obéir. Ils m'ont saisi violemment à cinq et forcé à entrer dans la voiture. J'ai résisté, crié, appelé à l'aide en m'agrippant à un panneau de signalisation. Un homme en civil est arrivé, une discussion entre eux en italien a débuté. Cela a duré. Soudain, la voiture banalisée a démarré. Une voiture de police avec cellule blindée à l'arrière a pris sa place. Une policière en tenue en est sortie. Les cinq hommes m'ont rattrapé à bras le corps et la femme m'a frappé au visage de toutes ses forces. Sonnée, j'ai malgré tout tenté de me débattre et d'appeler à l'aide, en vain. Le transfert a eu lieu dans un véhicule de police avec une cellule blindée en plexiglas, avec une banquette en plastique lisse, sur lequel il n'est pas possible de se maintenir assise dans les virages. À l'avant, un policier en tenue au volant et une policière, celle qui m'avait frappée, était à ses côtés. J'avais les mains menottées dans le dos et le véhicule roulait à fond. J'ai aperçu 140 au compteur. À chaque coup de frein ou virage, J'étais projetée durement d'une partie à l'autre de la cellule. La voiture a stoppé quelques instants à un barrage de camions et autres véhicules militaires ou policiers. La femme policière est sortie discuter. L'homme s'est retourné vers moi et m'a demandé « Va bene ?» J'ai fait signe que j'étouffais. Il m'a montré l'arrivée d'air à mes pieds. Puis nous sommes repartis. Le véhicule est sorti de la ville et a emprunté une autoroute et un péage. À l'arrivée, la voiture s'arrête devant un groupe de bâtiments. Dans la cour, une quarantaine de militaires habillés en kaki avec des bottes noires, des gants noirs, des gilets pare-balles noirs, des matraques, des armes, des menottes accrochées aux pantalons. Ils me sortent du véhicule avec violence et me lancent dans le premier bâtiment à ma gauche. Pour y accéder, il y avait des marches et en haut des marches, il y avait un hall d'entrée assez large avec de suite à droite un bureau et à gauche un autre. En face, un long couloir large de 2 mètres, avec de chaque côté des portes au début et des grilles de cellules ensuite. Je suis amenée dans la deuxième cellule à droite. En traversant ce bâtiment, je remarque qu'il n'y a pas d'autres prisonniers et que c'est plutôt calme. Je me souviens avoir pensé être la seule à m'être fait arrêter. Mais dans la cellule, je vois une jeune fille d'une 20aine d'années au fond, debout, les jambes écartées, les paumes contre le mur, qui pleure. La policière en tenue kaki, qui surveillait la grille, a tourné sa clé et m'a fait signe de la main de me mettre dans la même position. Je n'imaginais pas encore ce qui se passerait quelques minutes plus tard et, pleine de courage, je lui ai répondu que c'était une blague, qu'on n'était pas au Moyen-Âge et je me suis assise en tailleur au milieu de la cellule. La policière a haussé les épaules et m'a tourné le dos. Je me suis tournée vers la jeune fille et je lui ai demandé si elle était française. Elle m'a dit être allemande. Je lui ai expliqué en anglais qu'elle n'avait pas à subir ce genre d'humiliation et qu'elle pouvait s'asseoir. Elle semblait terrorisée et en larmes, elle m'a dit qu'elle ne voulait qu'une chose, c'était obéir pour en finir et sortir d'ici au plus vite. On est venu me chercher de suite pour un premier interrogatoire. Dans le couloir, déjà, il y avait un début d'effervescence et dehors, on entendait des sirènes. On m'a reçu dans le premier bureau à droite. En rentrant dans le bâtiment, un homme qui semblait être le chef des lieux, la quarantaine, un peu plus petit que moi, en civil, un peu rond, la tête ronde, chauve, les yeux bleus. Il m'a parlé en français. Il m'a traduit les questions que me posait un homme brun assis au bureau. Nom, prénom, âge, nom des parents, profession de chacun, etc. Il avait mon passeport ouvert sur le bureau. Il m'avait été pris dans la poche de mon jean Piazza Dante. J'ai répondu à chaque question en rapport avec mon état civil et lorsqu'ils ont commencé à me demander ce que je faisais dans la manifestation, j'ai demandé à un avocat que l'on prévienne attaque et le consulat. L'homme rond et chauve est sorti du bureau, visiblement énervé, et le brun m'a tendu un dossier de plusieurs feuilles en me demandant d'y écrire ce que je venais de leur dire, c'est-à-dire nom, prénom, profession, etc., et de signer en bas de chaque page. Il y avait des textes en italien sur chaque page et des blancs avec des pointillés. J'ai dit, je ne comprends pas l'italien, je veux un avocat, je ne signerai pas. Il est sorti du bureau très énervé, lui aussi, et l'homme chauve est revenu quelques secondes plus tard. Dans le bureau, il y avait en permanence 2 ou 3 militaires. Il s'est assis en face de moi, sur le bureau, et m'a dit les yeux dans les yeux, écoute, pour l'instant on n'a rien à te reprocher, ces papiers, c'est la procédure normale, ça dit ce que tu as fait, où tu as été attrapé, et les textes habituels. Si tu signes, ce soir tu es chez toi. J'ai répondu que je voulais un avocat et que je ne signerais pas. Il est sorti, les militaires m'ont attrapé violemment et m'ont traîné jusqu'à la cellule dans laquelle ils m'ont jeté. Dans la cellule, il y avait toujours la jeune fille allemande, debout, les mains sur le mur. Une autre allemande nous a rejoints peu après. Quelques minutes plus tard, la caserne a commencé à résonner de cris et d'agitation. Dehors, on entendait des sirènes de police ou d'ambulance. J'ai vu 2 ou 3 premiers prisonniers en sang projetés dans ma cellule. Ensuite, les hurlements se sont amplifiés. Les prisonniers, filles et garçons, tous très jeunes, sont arrivés en nombre. Les militaires les faisaient mettre face contre le mur, jambes et mains écartées, qu'ils soient valides ou blessés. Ils ont commencé à les frapper avec une violence extrême à coups de bottes au niveau des jambes, des parties sexuelles, le dos, les côtes. Ils leur donnaient des coups de casque derrière la tête, et le visage des prisonniers s'écrasait contre le mur. À ce moment, un militaire est rentré dans la cellule, m'a projeté contre le mur. Il m'a fait mettre en position face au mur et m'a intimé l'ordre de ne plus tourner la tête. Là, le vacarme était terrifiant. Le couloir résonnait de hurlements de souffrance, de plaintes et aussi des insultes gueulées par les militaires. Les bruits de coups et de brisements d'os étaient insupportables et malgré les menaces, je gardais les yeux vers le couloir pour voir et pour savoir. Les militaires cognaient contre les barreaux dès qu'ils me voyaient tourner la tête, mais ils avaient mieux à faire. Certains prisonniers de couloir s'écroulaient là et c'était une avalanche de coups de bottes. Je remarquais que les militaires s'acharnaient sur les plaies et les traces de coups déjà présentes. Notamment une jeune fille avec une plaie ouverte au front a reçu des coups de poing répétés sur sa plaie. Lorsqu'ils m'ont amené pour le second interrogatoire, j'ai vu dans le hall d'entrée plusieurs dizaines de corps allongés qui baignaient dans le sang. Pour moi, à ce moment-là, certains étaient morts. J'entendais toujours des sirènes au dehors. À partir de ce moment-là, tous les déplacements pour être interrogés se faisaient à coups de bottes, de matraques, de bourrades jusqu'au bureau. Aller et retour, j'étais projetée par terre, tirée avec violence par les vêtements et les cheveux. J'ai reçu des coups du plat de la main derrière la tête et sur la face et j'ai été insultée. Ma cellule s'est remplie de garçons et de filles dont certains étaient très amochés, plaies ouvertes, œil totalement fermé par des hématomes, bouche éclatée. Les premiers qui demandaient à aller aux toilettes étaient également frappés et violentés jusqu'au WC. On entendait leurs hurlements et leurs plaintes. Quand j'ai voulu à mon tour aller aux toilettes, une codétenue m'a fait signe de me laver les mains car pour elle, le fait qu'elle oublie de le faire a été prétexte à un tabassage sous les insultes. Beaucoup de détenus ont uriné discrètement dans la cellule. Jusqu'à tard dans la nuit et peut-être jusqu'au petit matin, les scènes décrites plus haut se sont poursuivies. Les prisonniers étaient copieusement et systématiquement passés à tabac avant d'être envoyés en cellule ou traînés jusqu'au hall s'ils étaient inconscients. Aucun soin n'était prodigué, même à ceux qui étaient visiblement en danger de mort. J'ai vu un jeune garçon pris de convulsions, du sang coulait de ses oreilles ou de son crâne. Il avait de la bave blanche qui sortait de sa bouche et il avait les yeux révulsés. Il a été laissé gisant par terre. Je l'ai vu à plusieurs reprises durant mes transferts, toujours au même endroit et inanimé. Je donne ici la liste des insultes proférées par les militaires que j'ai compris. Communisti, intégristi, rossi, porchi cani. Chez les militaires, il y avait des hommes et quelques femmes. Les hommes étaient les plus actifs pour les violences, mais les femmes participaient activement, riaient tout le temps et étaient d'une grande dureté. Aucune trace de compassion ou l'ombre d'un réconfort et à plus forte raison, aucune tentative d'interposition ne s'est manifestée à aucun moment de la part des militaires ou d'aucun autre personnel de la caserne. Tous étaient pris d'une sorte d'hystérie de violence. Dans les autres interrogatoires que j'ai subis, peut-être 4 dans la nuit, les militaires me demandaient de signer ces fameux formulaires en italien avec de nombreux blancs. J'ai toujours refusé de signer sur chacun des papiers et ils y ont inscrit « si rifiuta ». Lors d'un des interrogatoires, un policier m'a montré la photo de mes enfants sur mon passeport et dans son français a dit « c'est dommage, la mama en prison si no firma ». Tu ne veux plus voir tes enfants ? J'ai dit que je préférais la prison que de signer, ce que je ne comprenais pas. Et il m'a dit que je n'étais pas prête de sortir de prison et qu'en Italie, les intégristes, on les traitait comme ça. Au dernier interrogatoire, le gros chauve m'a signifié que devant mon refus de signer, il me mettait en état d'arrestation et qu'il me livrait aux autorités pénitentiaires. Un autre interrogatoire a eu lieu avec les policiers pénitentiaires. Leur uniforme était légèrement différent. Il y avait une policière parlant un peu français qui a tenté de me traduire ce que me demandait un policier. Là encore, d'autres formulaires en italien à signer. Devant mon refus, les policiers pénitentiaires se sont énervés, m'ont clairement signifié que j'étais maintenant une prisonnière et que j'étais en état d'arrestation. J'ai craqué nerveusement et je me suis effondrée par terre en disant que je voulais que l'on prévienne ma famille ou un avocat. Mais je n'ai rien signé. Retour dans la cellule, toujours debout, toujours des cris et des bruits de coups. Un moment, j'ai été menottée et emmenée dans une autre partie du bâtiment pour ce qui allait être une visite médicale. Ils m'ont fait entrer dans une pièce meublée d'un divan, recouvert d'une nappe de papier, d'une table, de quelques chaises. J'ai remarqué un pèse-personne, il y avait 3 femmes, dont la policière qui parlait un peu français. une femme en blouse blanche et environ 10 hommes en uniforme qui allaient et venaient, rentrant et sortant de la pièce. Un morceau de couverture était déplié par terre, au milieu. Ils m'ont demandé de me mettre sur la couverture et de me déshabiller entièrement. Il y avait toujours des hommes dans la pièce. Je demandais à l'interprète s'il pouvait se retourner. Elle leur a traduit. L'un d'eux s'est levé et s'est mis à crier, agressif et énervé. L'interprète m'a dit qu'il n'y avait ici que des docteurs et des infirmiers et que j'avais intérêt à me déshabiller très vite. Je me suis exécutée, mais pas assez vite à leur goût. Ils m'ont répété de me dépêcher. La policière me prenait mes vêtements au fur et à mesure, les secouait et les scrutait avant de les jeter par terre. Une fois nue, j'étais en face d'eux, je tentais de protéger ma pudeur. La policière m'a fait écarter les jambes en me donnant des coups de pied secs au niveau des genoux et m'a dit de me mettre les bras à l'horizontale devant moi. Elle m'a demandé de m'accroupir 3 fois. Ensuite, elle m'a retournée. Après de longues minutes, la policière m'a tendu mon slip que j'ai pu remettre. Elle m'a dit ensuite de me mettre sur le divan et la femme en blouse blanche m'a auscultée et pris l'attention. Elle m'a aussi posé des questions. Que la policière avait du mal à traduire. Cela concernait apparemment mes antécédents médicaux. J'ai compris qu'elle m'indiquait que ma tension était élevée, 17 ou 18. Elle n'a semblé ne pas faire attention aux nombreux hématomes que j'avais sur le corps, notamment sur l'épaule et la cuisse, les coups de matraque. Elle ne m'a jamais demandé ce que c'était, ni si je souffrais. Les hommes étaient toujours là, allant et venant. J'ai demandé un médicament pour soulager ma tête. Je souffrais du coup de poing de mon arrestation. La femme en blouse blanche a dit quelques mots à la policière qui a traduit qu'on allait s'occuper de moi. J'ai été ramenée à la cellule et il n'a plus été question de médicaments ni de soins. Au contraire, les sévices ont continué dans les cellules. Un militaire plus survolté que les autres désignait un détenu au hasard, mais plus facilement ceux qui étaient percés ou tatoués ou qui portaient des dreadlocks. Il l'attirait contre les barreaux et se mettait à le frapper à coups de gifles et de bottes. Un autre coupait avec des ciseaux les cheveux longs des filles et des garçons et les capuches des blousons. Plus tard encore, un autre transfert menottait dans le bâtiment pour la prise des empreintes et des photos. Le fonctionnaire chargé de ces formalités était de mauvaise humeur et semblait reprocher aux policiers son surcroît de travail. Au bout de la nuit, les policiers se sont lassés de nous maintenir debout car beaucoup d'entre nous s'écroulaient de souffrance ou d'épuisement. Nous avons fini par tous nous accroupir dos contre le mur et nous blottir les uns contre les autres. Nous tremblions de peur et de froid. Dans ma cellule, nous étions, en cette fin de nuit, 2 filles, une américaine nommée Teresa, moi-même et 8 garçons. Je me souviens particulièrement de l'un d'eux, très maigre, qui pleurait en silence. Tout à coup, un groupe d'une 20aine de militaires a fait irruption dans la cellule. Ils nous ont empoignés et menottés 2 par 2. Teresa et moi ensemble. Les gifles se sont encore mises à pleuvoir. Nous avons été jetés hors de la cellule, puis dans le couloir. Ils s'en sont alors pris aux garçons. Des bruits de bottes, des bruits de coups violents et des hurlements insoutenables ont encore une fois longuement retenti. Puis ils nous ont amenés dans un fourgon cellulaire. Au passage, dans le hall, j'ai aperçu à nouveau le corps inanimé que j'avais vu dans l'après-midi. Il n'avait pas bougé. Il faisait nuit noire lorsque nous avons traversé la cour vers le fourgon cellulaire. À l'intérieur, 3 cellules grillagées. Une fois dedans, 2 par 2, j'étais avec Teresa. On ne voyait plus les autres prisonniers, on les entendait seulement. Dans ce fourgon, garé au milieu de la cour, rempli de militaires qui s'agitaient, nous sommes restés une éternité. Je me rappelle m'être endormie 2 ou 3 fois et réveillée à chaque fois à coups de matraque dans la grille, alors que nous étions menottés et enfermés dans la cellule. Chaque fois que Teresa et moi nous endormions l'un contre l'autre, un militaire nous réveillait à grands coups dans la grille. Par la porte du fourgon laissée ouverte, tout le long, j'ai vu que la ronde d'ambulances continuait à circuler. Nous n'avions aucune explication. Nous avions faim, soif, nous étions frigorifiés et terrorisés. Là, nous étions à nouveau aux mains des militaires, les tabasseurs. J'en remarquais une femme corpulente, 30 ans, blonde, coupe au carré, qui était restée devant la grille de ma cellule tout le long de la soirée. Elle semblait particulièrement à l'aise dans cette ambiance de massacre et n'hésitait pas à encourager ses collègues. 9 militaires, dont la femme blonde, sont montés dans le fourgon. J'ai remarqué qu'ils s'équipaient avec des boucliers, des armes prêtes à servir, comme s'ils s'attendaient à un assaut du fourgon. Nous avons roulé lentement, longtemps, sur des autoroutes, je pense. Arrivés dans une prison, nous avons à nouveau été traînés tous les 6, sans ménagement, à travers les couloirs. Cela me semblait être une livraison à une autre équipe militaire. Ils nous ont séparés, des garçons, démenottés, et envoyés dans une minuscule cellule avec toilette. La porte est à peine refermée que les hurlements, les bruits de coups, les insultes ont repris à nouveau de manière insupportable pendant 15 minutes. À ce moment-là, Chiara puis Arianna, deux Italiennes, nous ont rejoints. Leurs yeux étaient exorbités, Chiara tremblait de froid, nous nous sommes blottis les unes contre les autres. Très vite, nous avons été menottés et transférés dans un nouveau fourgon pour reprendre la route. Nous n'avons jamais revu les garçons. Quand nous sommes arrivés à la prison d'Alessandria, le jour s'était à peine levé. Nous avons été enfermés dans une cellule sans toilette, avec un rebord en ciment de 10 cm, sur lequel il est impossible de s'asseoir. La grande fenêtre à barreaux donnait directement sur l'extérieur, sans vitrage. Le matin devait être frais, ou était-ce l'état de choc, toujours était-il que nous avions horriblement froid. J'ai aperçu à ce moment l'état de Teresa. Son dos n'était plus qu'une plaie, des hématomes longs, boursouflés, sanguinolents, débordés les uns sur les autres. Il n'y avait pas un centimètre de peau entre les fesses et les épaules qui soit intacte. Je me rappelle maintenant que lors du transport, Teresa faisait son possible pour ne pas s'appuyer sur le dos. Elle posait sa tête sur ses genoux. Chiara était surtout blessée sur les côtes et les jambes. Arianna semblait moins touchée physiquement, mais son visage était ravagé par la peur. Durant la matinée, d'autres filles nous ont rejoints jusqu'à ce que nous soyons 9 dans la cellule. Esther, qui est italienne et qui parle français, elle est elle aussi couverte d'ecchymoses. À chaque arrivée de détenus, nous interpellions les gardiens pour qu'ils nous donnent à boire ou pour aller aux toilettes. Après une longue attente, entre 20 et 40 minutes, ils nous permettaient d'aller aux toilettes une par une. Enfin, mon tour est venu, il y avait un robinet et j'ai pu boire. En début d'après-midi, nous avons été amenés à tour de rôle pour les formalités et la fouille, mais cette fois-ci uniquement en présence de 2 femmes. D'abord, dans un premier bureau, ils ont fait l'inventaire de nos affaires. Certaines m'avaient suivi, carte bleue, lunettes. D'autres avaient disparu, notamment les interviews des personnes et les journaux que j'avais achetés qui m'auraient servi à rendre compte de la manifestation. Pour la visite médicale, le docteur, un homme d'une 50aine d'années, a trouvé à nouveau ma tension élevée et m'a proposé un cachet pour dormir, mais j'ai refusé. Il a demandé si j'étais blessée, mais il ne m'a ni auscultée ni examinée. Ensuite, dans un autre petit bureau, j'ai récupéré un sac poubelle avec une couverture, un drap, une assiette, une fourchette et une timbale en plastique. Sur mon formulaire d'enregistrement d'incarcération, il était marqué 15 heures. J'ai été alors conduite dans un bureau qui me semblait être celui du directeur de la prison. J'ai rempli encore des formulaires. Là, j'ai recommencé à demander un avocat et à ce qu'on prévienne ma famille et le consulat. Pour l'avocat, il fallait que j'attende le lendemain. Pour la famille, j'ai dû noter mon numéro sur un bout de papier et le directeur m'a assuré qu'il s'en occupait personnellement dans l'heure qui suivait. Il m'a également garanti que je pourrais voir mon avocat le lendemain matin et que je pourrais téléphoner à mes enfants. Il a ajouté que pour l'instant, l'important était que je dorme. J'ai enfin été amenée dans ma cellule de prison avec Chiara et Diana. Une cellule de 3 lits métalliques avec un robinet d'où coulait un filet d'eau et un WC sec. J'ai fait mon lit, je me suis allongée. Les pensées, l'attente, la lumière permanente et les appels dans le couloir, l'angoisse, la faim. Il était impossible de dormir et il devait être 16 heures. Diana pleurait sans arrêt et elle était très fragile. Chiara semblait plus solide, mais j'ai vite vu beaucoup de dégâts sur son corps. Toujours des multiples traces de matraques, longues et noires, des bleus et des hématomes. On a commencé à se réconforter, à panser nos plaies et à se masser. Le régime carcéral était un régime normal, bien que les gardiens se livraient à un petit jeu psychologique très pénible. Ils promettaient en fin de poste des visites d'avocats, nous demandaient de nous préparer à sortir de la cellule pour téléphoner à nos familles. La joie et l'espoir nous faisaient danser la ronde toutes les 3 et on entendait les mêmes réactions dans les cellules voisines. Puis la relève des gardiens avait lieu et on nous annonçait qu'il n'en avait jamais été question. Cette pratique a duré tout le temps à Alessandria et c'est, semble-t-il, le régime carcéral normal. Notre premier repas a été servi vers 18h30, soit 30 heures après notre arrestation. On nous a également remis des formulaires de Telegram en nous disant que celles qui avaient de l'argent pouvaient envoyer un message tout de suite et qu'il serait à destination dans la soirée, ce que nous avons fait. Nous avons su par la suite qu'aucun coup de fil n'a été passé, aucun télégramme n'est parti avant l'annonce de notre libération.
Le dimanche, nous avons eu deux promenades dans la cour de la prison, le matin et l'après-midi. À notre première rencontre du matin, toutes les neuf, nous avons vite compris que nous sortions du même enfer et que nous avions subi le même sort durant la nuit précédente. De toute évidence, les degrés de gravité de blessure étaient liés à l'apparence physique. Celles qui portaient un tatouage ou un piercing ou un vêtement noir ou des dreadlocks avaient plus de plaies et de traces que les autres. Dès la première rencontre, j'ai proposé que nous rédigions plus vite nos témoignages afin de les faire passer à la première personne venant de l'extérieur, avocat, personnel soignant ou magistrat, et que l'une d'entre nous rencontrerait. Nous n'avions en effet aucune idée du temps que nous passerions en prison. Je leur ai dit qu'il était urgent de faire savoir à l'extérieur ce qu'il s'était passé la nuit du 20 juillet. L'après-midi déjà, on me remettait discrètement trois premiers témoignages. Nous avons eu deux visites, un responsable socialiste et un magistrat italien qui ont tenté de nous rassurer sans rien nous dire vraiment et qui sont restés en tout 10 minutes chacun. Très peu de nouvelles de l'extérieur, très peu de précisions sur notre sort. Ils nous ont annoncé la mort de Carlo Giuliani. Ils étaient l'un comme l'autre escortés de policiers et militaires. Nous n'avons pas pu parler des traitements subis, de nos blessures, ni remettre les premiers témoignages que j'avais dans mon slip. À 11h30, on nous a servi une assiette remplie de riz, de verdure, d'une tranche de melon par-dessus et d'une couche de brocoli supplémentaire, en nous précisant qu'il n'y aurait rien d'autre de la journée. On a su dès la première heure que nous serions reçus par un juge dans la journée et que nous verrions sûrement des avocats. Pas plus de précisions sur l'heure, le lieu, les conséquences. Promenade du matin, je reçois discrètement deux témoignages de plus. Ensuite, c'est l'attente. On est venu nous chercher peut-être vers 10 ou 11 heures. Pas de petit déjeuner, rien dans le ventre depuis la veille 11 heures. Nous avons été menottés, transportés en fourgon cellulaire dans une autre ville, à une heure environ d'Alessandria. Remises toutes ensemble dans une cellule minuscule avec toilette, mais pas d'eau. Encore attendre. Dans le courant des heures qui ont suivi, nous sommes passés une par une devant un avocat, puis une juge. Je pense que nous avons toutes décrit d'abord ce qui s'était passé la nuit du 20 juillet, bien que nous étions entendus pour nos faits et gestes. Les avocats nous ont fortement conseillé de témoigner en détail de ces événements durant l'entretien avec la juge. Ce que j'ai fait pour ma part d'une façon floue et peu précise en réalité, parce que je n'avais pas dormi depuis 4 nuits, parce que j'étais épuisée, affamée et surtout parce que le couloir... et l'établissement était rempli de militaires ressemblant à ceux qui avaient tabassé la nuit du 20 juillet et que je n'avais aucune confiance en qui que ce soit. Moi, j'ai entendu le cauchemar est fini. Naïvement, en sortant du bureau du juge, j'ai marché vers une sortie. Un militaire m'a empoigné et dirigé vers la cellule. Je me suis tournée vers mes avocats. L'un d'eux m'a rassurée. M'a parlé de procédures, de quelques corvées administratives qui ne seraient plus très longues. Il devait être 14 heures. À un moment, la porte de la cellule a été ouverte pour l'une de nous et nous avons vu passer des civils avec attaché-case, cravate, etc. Dans un même élan, nous leur avons crié à l'aide, hurlant que nous avions faim et soif. Une demi-heure plus tard, on nous a remis un carton rempli de sandwichs au fromage et l'on nous a fait sortir une par une pour boire à un robinet. Dans l'après-midi, la moitié d'entre nous, dont moi, avons été transportés dans un fourgon sans les menottes jusqu'à la prison d'Alessandria. On nous a remis dans nos cellules respectives en nous demandant de plier nos affaires et de nettoyer. Une fois les préparatifs terminés, nous avons été placés dans la cellule à la grande fenêtre où nous étions restés la journée du samedi. Chiara s'impatientait et avant d'entrer dans la cellule, elle a demandé « Je croyais que nous étions libres, pourquoi nous enfermer encore ?» Le policier lui a répondu de se calmer et qu'il y en avait pour 10 minutes. Il devait être 17 heures. Les autres filles sont arrivées peu de temps après. Nous attendions toujours dans cette cellule sans toilette, ni eau, ni chaise, libre. Vers 19 heures, Chiara a commencé à s'inquiéter car sa remise en liberté était sous la condition qu'elle se présente tous les jours au commissariat de Gênes avant 20 heures, à compter du jour même. Elle a appelé l'agent durant de longues minutes. Lorsqu'il s'est présenté, elle lui a expliqué qu'elle devait prendre un train pour Gênes. Il semblait très énervé et a gueulé en italien pendant 5 minutes. Chiara a répondu en gueulant également. Je ne comprenais que quelques mots. Elle parlait de liberté et d'innocence. Elle parlait de droit. Elle a fait ouvrir la grille et s'est jetée sur elle. Pardon. Il a fait ouvrir la grille et s'est jeté sur elle en la frappant. Il l'a menacée, son visage tout contre celui de Chiara, en la tenant par le col et la plaquant contre le mur. J'ai compris qu'il disait être le chef ici et qu'elle n'était rien. Elle s'est redressée, fière, et lui a signifié qu'elle était libre et qu'elle n'avait pas peur. D'un coup, il s'est reculé, a crié des ordres et des policiers sont entrés dans la cellule et nous ont toutes menottées. Nous avons été poussés jusqu'à nos anciennes cellules et réenfermés dedans. Pour ma part, j'ai craqué nerveusement et je me suis écroulée en larmes. J'entendais les autres pleurer également dans les cellules voisines. Ils sont venus chercher Chiara sans ménagement quelques minutes plus tard. Puis, quand la nuit a commencé à tomber, ils sont venus nous chercher les unes après les autres et nous avons effectué le parcours administratif de sortie. Remise des affaires personnelles, signature de papier, etc. Dans mes affaires, il n'y avait plus mon argent ou quelques centimes italiens et à la place, j'avais un reçu de la poste d'Alessandria pour un télégramme d'une valeur de 200 francs environ, parti le jour même à 14 heures. Il s'agissait du télégramme que j'avais écrit à ma famille annonçant mon arrestation, donnant de mes nouvelles et demandant à un avocat que j'avais rédigé le samedi à mon arrivée. Nous avons été libérés, il était 22 heures.
Ça va très bien. Ça va très bien, François. Ça va.